Le journal, présenté par Lise Verbeek.
Bonjour à toutes et à tous. Au Nicaragua, pas un commerce n'était ouvert hier, pas une banque, personne dans les rues et les bus qui roulaient à vide. Le temps était comme suspendu dans le pays, paralysé par une grève générale. La deuxième du genre depuis le début de la contestation réclamant le départ du président Ortega. Le mouvement a été lancé il y a 3 mois par l'opposition. Elle demande des élections anticipées et accuse le président du Nicaragua d'avoir mis en place avec son épouse une dictature marquée par la corruption et le népotisme. Depuis le début de la contestation, la vague de violence a fait près de 270 morts. Un quotidien difficile à supporter pour les habitants, comme le décrit Cassandra. Elle est à Managua, la capitale du Nicaragua.
Notre quotidien se base dans la peur. On a peur de sortir, on a peur de traîner tard le soir. Il y a comme un couvre-feu qui n'a pas été déclaré parce que pratiquement toutes les personnes rentrent chez elles à 4h, 17h. Donc on n'a pas de vie après 18h pratiquement. C'est trop dangereux d'être dans les rues, dehors. On est très intimidés par la police et les forces paramilitaires qui sont déployées dans toutes les villes pratiquement. À la capitale, nous avons un peu plus de chance parce que les gens ont quand même la possibilité d'aller travailler. Mais dans les villes autour de Managua, notamment celles qui ont été le plus touchées comme Masaya ou Jinotepe ou Diriamba, il n'y a plus du tout de vie. Les gens sont enfermés chez elles. La plupart des personnes qui ont manifesté ont peur de sortir, ont peur des représailles. Donc voilà, c'est ça notre quotidien.
Cassandra, une habitante de Managua. Aujourd'hui, un convoi d'opposants en véhicule doit parcourir les quartiers est de la capitale, où la police du Nicaragua est violemment intervenue pour démonter les barricades des manifestants. Après avoir soufflé le chaud et le froid, Donald Trump s'est finalement radouci hier face à la première ministre britannique Theresa May. Le président américain s'est dit impatient de conclure un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni, quelques heures après avoir critiqué le plan de sortie de l'Union européenne de Theresa May. Aujourd'hui et demain, il est en Écosse. D'autres manifestations comme à Londres hier sont prévues pour dénoncer sa venue. Lundi, direction Helsinki pour Donald Trump où il rencontrera son homologue russe pour un premier sommet entre les deux présidents. Une trentaine de mesures, davantage de pouvoir pour la Direction générale de la sécurité intérieure, la création d'un parquet national antiterroriste. Voilà dans les grandes lignes le 4e plan d'action contre le terrorisme présenté hier par le Premier ministre français Édouard Philippe. Ce nouveau plan prévoit également la création d'une cellule pour renforcer la surveillance des détenus condamnés pour terrorisme ou radicalisés en prison. Détenus qui seront libérés dans les prochains mois, cela concerne environ 450 personnes. Et c'est la principale menace à géré en priorité, selon le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, Éric Dénessé, qui s'interroge sur les moyens mis en œuvre par le plan.
Ce suivi des djihadistes libérés de prison, ou des apprentis djihadistes, ou des complices des djihadistes, va poser un véritable problème, parce qu'il y a malheureusement 3 chances sur 4 qu'ils se soient davantage radicalisés en prison, que leur détermination pour passer à l'action soit toujours totale. Et là, je pense qu'on va se préparer des moments difficiles que, a priori, le gouvernement semble vouloir anticiper. Maintenant, on manque d'éléments beaucoup plus concrets, à part ces effets d'annonce, sur qu'est-ce qui va être mis en place exactement et comment ces hommes vont être surveillés. Alors, on parle d'une nouvelle cellule, d'un nouveau dispositif pour les surveiller, c'est très bien. Mais pour surveiller 450 personnes à plein temps, il faut quasiment mettre une vingtaine de personnes pour les surveiller. Donc 450 x 20, vous voyez, on est à des chiffres qui ne sont pas aujourd'hui dans les moyens des services de sécurité français. La question, c'est est-ce qu'on doit les libérer à l'état actuel des choses? Est-ce qu'on doit les remettre en liberté n'importe où sur le territoire sans surveillance? Là, il y a à la fois un problème de respect des droits, à partir du moment où quelqu'un a été condamné et a effectué sa peine. Dans nos démocraties, normalement, on considère qu'il est maintenant plus coupable ni suspect, mais ça va poser un vrai problème, donc il est urgent de réfléchir très très activement à cette menace.
Éric Dénessé, le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, interrogé par Camille Magnard. Le défilé du 14 juillet qui aura lieu dans quelques heures à Paris est placé sous le signe de la fraternité d'armes. Les troupes défileront traditionnellement sur les Champs-Élysées avec une mise à l'honneur cette année des forces militaires et de secours qui sont intervenues après le passage de l'ouragan Irma à l'automne dernier aux Antilles. Les invités d'honneur sont les délégations japonaises et singapouriennes. Le défilé démarre à 10h30. Le temps pour ce 14 juillet alternera entre soleil et pluie. Des averses orageuses sont attendues dans le centre-est. Il fera ce matin entre 12 et 23 degrés.